VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Il est 16h en temps universel. Nous sommes le vendredi 24 juillet 2015. Ravi de vous retrouver pour ce tour d'horizon de l'actualité en 10 minutes. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a été réélu ce vendredi dès le premier tour avec plus de 69% des voix. Pour un troisième mandat controversé, verdict attendu des urnes après trois mois d'une grave crise politique déclenchée par la candidature du chef de l'État, Michel Joseph.
Monsieur Nkurunziza, élu en 2005 et déjà réélu en 2010, a obtenu 69,41% des suffrages exprimés lors du scrutin qui s'est déroulé mardi au Burundi, selon les résultats proclamés par Pierre Claver Ndayikariye, le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. La participation s'est élevée à 73,44% selon la même CENI, alors qu'observateurs et journalistes avaient constaté une affluence relativement moyenne dans les bureaux de vote selon l'AFP. La large victoire au premier tour de M. Nkurunziza était largement attendue, l'opposition ayant appelé au boycott du scrutin. Le chef de l'État l'emporte dans 16 des 18 provinces du pays, notamment à Bujumbura, qui lui est traditionnellement hostile, mais où votaient de nombreux militaires et policiers déployés dans la capitale le jour du vote. Principal opposant à Agathon Rwasa, qui représentait la coalition d'opposition des indépendants de l'espoir, arrive en deuxième position avec 18,99% des suffrages. Il l'emporte d'une courte tête dans les provinces du Bujumbura rural, son fief traditionnel, et de Rumonge. Sans retirer formellement sa candidature, M. Rwasa avait indiqué ne pas reconnaître la légitimité du scrutin. Derrière arrive Gérard Ndouboyo, candidat de l'UPRONA, Jean Minani, Frodebou Niakouri, opposition, Jacques Bigiramana, FNL, l'ex-président Domitien Ndayi Zeye, Jean de Dieu Moutabazi, mouvance présidentielle, et l'ancien chef de l'État, Sylvestre Ntibandougagna.
J'ajoute que la coalition ADC Ikibiri a dit à VOA Afrique qu'elle ne reconnaît pas cette élection et celle des législatives. Donc la CENI doit envoyer ses résultats à la Cour constitutionnelle pour validation et proclamation des résultats définitifs. Également dans l'actualité, les centaines de milliers de centrafricains réfugiés dans les pays voisins doivent pouvoir voter aux élections d'octobre. C'est la Cour constitutionnelle centrafricaine qui le dit, tel que le rapporte l'AFP. Pour rappel, le Conseil national de transition avait rejeté le 30 juin les dispositions du projet de loi électorale permettant aux réfugiés centrafricains de voter, ce qui obligerait les citoyens désirant participer au scrutin à rentrer en Centrafrique. Mais pour la Cour, la non-prise en compte du droit de vote des centrafricains déplacés et réfugiés est une violation de la charte constitutionnelle. Il y a actuellement 460 000 réfugiés centrafricains au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville. Les États-Unis ont condamné fermement les attentats suicides de Boko Haram à Maroua, au Cameroun, et les multiples attentats à la bombe dans la ville septentrionale de Gombe, au Nigeria. Le point avec Camille Gros-Didier.
Dans un communiqué, le porte-parole du département d'État, Mark Turner, qualifie ces attaques perpétrées cette semaine d'horribles et aveugles. Il fustige le recours par Boko Haram à des enfants utilisés comme kamikazes. Ciblés systématiquement des civils, des femmes et des enfants, témoigne selon lui de la brutalité insensée du groupe. Les États-Unis restent déterminés à appuyer les forces de sécurité du Cameroun, du Tchad, Niger et Nigeria dans leur guerre d'usure contre la milice, a-t-il poursuivi. Ils continueront de soutenir les gouvernements et les peuples de la région du bassin du lac Tchad dans ce combat. Par ailleurs, ajoute le département d'État dans son communiqué, les États-Unis se félicitent à l'avance d'élargir leur soutien sur une base bilatérale et à travers la Joint Task Force, la force multinationale contre Boko Haram, qui sera coordonnée par les pays du bassin du lac Tchad et le Bénin. Les attentats de Maroua et Gombe ont fait plus d'une soixantaine de morts et des dizaines de blessés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La capitale kényane était inhabituellement calme ce vendredi après-midi dans l'attente de l'arrivée de Barack Obama dans la patrie de son père pour une visite sous haute sécurité dans un pays durement frappé par Al-Shabaab, le groupe somalien affilié à Al-Qaïda. Barack Obama qui a quitté les États-Unis à 0h28 GMT à bord d'Air Force One effectue sa première visite dans le pays depuis qu'il est président. Selon l'AFP, une partie de Nairobi sera complètement verrouillé et l'espace aérien sera même fermé au moment de l'arrivée du président américain et de son départ dimanche soir vers l'Éthiopie et le siège de l'Union africaine. Le président américain doit prononcer demain un discours lors d'un sommet international sur l'entrepreneuriat et s'entretiendra avec son homologue kényan Uhuru Kenyatta des questions économiques, sécuritaires et de respect des droits de l'homme. Nouvelle fusillade aux États-Unis dans l'État de Louisiane. Cette fois-ci, un homme a ouvert le feu hier soir en pleine projection dans un cinéma de Lafayette. Le bilan provisoire est de 2 morts, 9 blessés. Le tireur, s'est donné la mort peu après l'arrivée de la police. Sa motivation n'a pas encore été déterminée. Quasiment au moment de l'attentat, une chaîne de télévision britannique diffusait une interview du président américain dans laquelle il affirmait que sa plus grande frustration à la Maison-Blanche était de ne pas avoir pu réglementer les armes à feu aux États-Unis. Cet incident est le dernier d'une longue série, le deuxième en 3 ans dans une salle de cinéma. Également dans l'actualité à l'étranger, la Turquie s'est résolument engagée dans la lutte contre l'organisation terroriste État islamique en menant aujourd'hui ses premières frappes aériennes contre les positions djihadistes en Syrie, alors que la police a mené un vaste coup de filet antiterroriste dans tout le pays. Ses premiers raids aériens sur le nord syrien ont fait 9 morts dans les rangs de l'EI, d'après l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme, 4 jours après l'attentat meurtrier attribué au groupe État islamique qui a visé la ville frontalière de Suruç. 3 chasseurs F-16 de l'armée de l'air turque ont bombardé plusieurs positions tenues par le mouvement radical sur le territoire syrien face à la ville turque de Kilis. Le Premier ministre Ahmed Davutoğlu a indiqué que l'opération ne s'arrêterait pas. D'ailleurs, dans le cadre d'un raid policier à travers toute la Turquie, je vous le disais, près de 300 membres présumés du groupe État islamique ont été appréhendés. Ce même vendredi, des rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan sont également visés. Le PKK a revendiqué le meurtre de 2 policiers près de la frontière avec la Syrie en riposte à l'attentat de Suruç. La communauté kurde de Turquie reproche au gouvernement d'avoir permis au groupe État islamique de sévir sur le sol turc, ce que nie Ankara. Et après un entretien téléphonique des présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et américain Barack Obama, la Turquie a finalement autorisé les États-Unis à utiliser plusieurs de ses bases aériennes pour mener des raids toujours contre le groupe État islamique en Syrie ou en Irak. La crise grecque, les représentants de l'Union européenne, du Fonds monétaire international et de la Banque centrale européenne, ce sont les créanciers d'Athènes, longtemps connus sous le nom de Troïka, sont attendus dans la capitale grecque dans les prochains jours. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la Commission européenne. Une source ministérielle grecque avait indiqué que la venue des représentants des créanciers devait se faire ce vendredi, mais cette date n'avait jamais été confirmée à Bruxelles ou à Washington, rapporte à l'AFP. L'enjeu de ce nouveau cycle de réunions est la finalisation d'ici au 20 août au plus tard du 3e plan d'aide à la Grèce dont le principe a été accepté dans la douleur le 13 juillet par la zone euro et le gouvernement grec, car la Grèce, dont les caisses sont vides, doit rembourser plus de 3 milliards d'euros à la BCE le 20 août, puis 1,5 milliard au FMI en septembre. Vendredi, le Premier ministre grec Alexis Tsipras et le président français François Hollande se sont entretenus sur la mise en œuvre de l'accord du 13 juillet. Tous deux ont réaffirmé l'importance du respect des engagements contenus dans ce texte, a indiqué le gouvernement grec. Enfin, très rapidement, à Washington, le secrétaire d'État John Kerry et ses collègues de l'énergie et du trésor ont défendu lors d'une audience au Sénat américain hier l'accord nucléaire conclu la semaine dernière entre l'Iran et 6 grandes puissances. Et voilà, je vous retrouve dans 50 minutes pour un autre point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.